Suivez Priorité Santé. Téléchargez MySounou pour souscrire ou gérer vos assurances et MySounou Bank pour votre compte bancaire.
Priorité Santé. Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. Ravie de vous retrouver au Sénégal. Priorité Santé vous propose de nouvelles rencontres pour ces trois émissions en Casamance qui seront autant d'occasions de découvrir des acteurs de terrain qui soignent, qui accompagnent, qui sensibilisent. Les femmes et les hommes avec qui nous vous proposons d'échanger aujourd'hui à Ziguinchor travaillent pour une cause, celle de l'autonomisation et de la santé des enfants en situation de handicap. Des enfants handicapés qui ont un faible accès aux services et aux soins médicaux alors qu'ils sont davantage exposés à certains risques. Nous donnons la parole à des membres de l'Association Spéciale Olympique Sénégal, à des intervenants qui se joignent à leurs engagements et leurs initiatives, enseignants, soignants, avec comme levier le sport, l'inclusion. La préoccupation des responsables et bénévoles de Spécial Olympics, déceler, stimuler le goût du sport chez les enfants atteints de trisomie 21 ou d'autisme, malentendants ou handicapés moteurs, le sport qui révèle, le sport qui entretient et qui autonomise. Inviter les enfants, mais aussi les parents, à se lancer, persévérer et connaître de nouvelles émotions. Promouvoir l'activité physique, mais aussi l'inclusion scolaire, la promotion de la santé et la lutte contre la stigmatisation. Stimuler l'estime de soi chez les enfants et les parents, en finir avec l'isolement et renforcer les liens familiaux en faisant émerger des compétences et de la bienveillance et surtout des sourires et de la joie de vivre. Intégration, développer des programmes adaptés, améliorer le statut des enfants en situation de handicap, échanger surtout le regard des autres. Nos invités sont engagés pour cette promotion d'une inclusion qui repose initialement sur le sport et l'éducation, mais nous allons le comprendre au cours de cette émission, elle rayonne bien au-delà cette inclusion. On retrouve avec nous Aissatou Diédiou. Bonjour madame.
Bonjour.
Vous êtes la responsable de Spécial Olympique Sénégal pour le sous-programme de Ziguinchor au Sénégal. Je précise que vous êtes professeur d'éducation physique au lycée Djignabo. Un médecin qui participe au programme de santé, consultation médicale, c'est vous, professeur Lamine Thiam. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le chef du service de pédiatrie de l'hôpital de la Paix ici à Ziguinchor. Vous êtes professeur agrégé spécialiste de neurologie pédiatrique, également professeur Thiam, enseignant-chercheur à l'université à Sansec. La parole également à l'un des acteurs essentiels de cette alliance pour l'autonomisation des enfants en situation de handicap, Chérif Niassi, bonjour.
Oh, bonjour.
Vous êtes le père de Nfali, vous allez nous parler de lui tout à l'heure. Vous êtes enseignant à l'élémentaire, vous l'accompagnez à votre fils dans ses activités avec Spécial Olympics et vous pourrez nous expliquer tout à l'heure ce que cette expérience lui a apporté, comme à lui donc, à vous et à toute la famille. Priorité Santé en Casamance, une émission réalisée en partenariat avec le Fonds Muskoka qui œuvre à l'amélioration de la santé et du bien-être des femmes, des nouveau-nés, des enfants et des adolescents en mobilisant les expertises complémentaires des quatre agences des Nations Unies, OMS, ONU Femmes, UNFPA et l'UNICEF. Le Fonds Muskoka intervient dans 6 pays d'Afrique de l'Ouest et du Centre.
Priorité Santé sur RFI.
Alors c'est cette association Spécial Olympique qui nous accueille dans ses locaux aujourd'hui à Ziguinchor. Au niveau du Sénégal, 400 bénévoles, 3000 athlètes en situation de handicap. Aissatou Diédou, Spécial Olympique, c'est pas forcément connu du grand public. Comment décrire concrètement ce que vous faites?
Donc notre activité phare, c'est le sport. Le sport que nous faisons, ces activités, c'est l'athlétisme qu'on fait. Et il y a aussi le sport collectif, comme le basket, le football, le handball en animation et le boccia.
Alors la boccia, j'ai juste précisé, parce qu'on l'a découvert lors des Jeux Olympiques, hein, notamment les Jeux Paralympiques de Paris, avec des personnes qui ont découvert ces enfants qui sont atteintes le plus souvent d'atteintes neurologiques et qui font un jeu de précision, d'aisance avec la bouche en pilotant, on va dire, des boules vers une cible. Ça peut ressembler à une pétanque, mais pour des enfants en situation de handicap. Et je précise quelque chose de très important, c'est que vous, ces enfants, vous ne les appelez pas des handicapés, mais des athlètes.
Voilà, c'est pour juste éviter la stigmatisation, la frustration dans les familles et leur valoriser surtout. Donc si vous leur appelez des athlètes, ils ne seront pas isolés, ils seront parmi tout le monde.
Pourquoi vous, prof de sport, vous vous êtes intéressé au sport chez les enfants en situation de handicap?
Donc c'est tout simplement une expérience que j'ai vécue au niveau de Dakar, étant étudiante. J'ai fait 6 ans avec les athlètes qui sont de Dakar. Et à la fin de la formation, on m'a affectée à Ziguinchor, donc c'est chez moi.
Alors, c'est ça.
Quand je suis venue à Ziguinchor, je me suis dit, tiens, pourquoi pas donner la chance aux personnes ayant une déficience intellectuelle, donc aux athlètes, de vivre cette situation de handicap comme il se doit, de vivre comme tout le monde. Et on s'est lancé et ça a bien porté. Et la population s'est bien intéressée, les parents aussi nous accordent leur attention et savent que c'est intéressant de faire du sport pour le bon développement harmonieux de leurs enfants.
Chérif Niassi, justement, les parents, le père autour de cette table, comment vous, vous avez été amené à connaître l'association et ses activités?
La première rencontre avec l'association spéciale olympique, c'est parti à partir de ma femme qui, avec une certaine collaboration, m'a interpellé pour me dire qu'effectivement, il y a une association qui défend les enfants handicapés en situation d'handicap. Donc, je pense que notre fils qui est là, il est intéressant quand même de lui faire entrer dans cette association. Donc, je lui dis, il n'y a pas de problème, on va essayer de voir. C'est ainsi qu'on s'est intéressé, on s'est rapproché de l'association et ils nous ont donné les modalités d'adhésion et on s'est lancé dedans et aujourd'hui, on ne le regrette pas.
Vous ne regrettez pas? Il fait quoi comme activité sportive, votre fils?
Il fait de l'athlétisme.
Il a quel âge?
Il a 25 ans. Il jouit de ses propres, pratiquement l'athlétisme, comme une activité qui lui est propre. Donc, pas mal, il se défend pas mal.
Il se défend pas mal, il a un bon niveau en athlétisme.
Oui,
il a quoi comme handicap? Est-ce que je peux vous poser cette question?
Non, c'est un handicap mental, un retard mental. Bon, dès ses premières années à l'école, bon, ça ne fonctionnait pas. Il redoublait à tout moment, jusqu'à vraiment ses petites sœurs, ses petits frères viennent le dépasser. Je lui dis que vraiment... Hein, donc,
c'est à cause du retard à l'école que vous avez compris qu'il y avait une déficience mentale parce que ça n'avait pas été diagnostiqué par un médecin?
Avec la collaboration de son maître, puisque on se collaborait souvent, je suivais souvent mes enfants sur leur cursus scolaire, cause pour laquelle, avec la collaboration de leur maître, ils m'ont dit que bon, votre fils, bien vrai qu'il est à l'école, mais je vous propose que, quand même de lui chercher autre chose. Donc, cause pour laquelle... Je me suis lancé dans l'association et aujourd'hui, je ne le regrette pas.
Hein, vous ne le regrettez pas?
Pas du tout.
Aissatou Diédou, bien sûr, on va parler du sport à Special Olympics, mais c'est aussi important de le préciser, vous avez des interventions dans le domaine de la santé, dans le domaine du soin avec l'association.
Donc, en dehors du sport, en fait, quand je me suis lancée au niveau de Special Olympics, je me suis dit, tiens, derrière le sport, il y a autre chose. Donc, ce qui fait que, pour soutenir un peu les parents, en dehors du sport, nous faisons la santé, donc des consultations médicales chaque année qu'on fait. Et on passe d'abord par une sensibilisation pour prendre une semaine pour faire porte-à-porte, pour sensibiliser les parents, pour qu'ils puissent amener leurs enfants pour une consultation médicale. Et la consultation médicale, nous faisons ça au niveau du lycée Dignabo. On est né depuis 2016 et les athlètes qu'on a eu à consulter sont au nombre de 401. Donc 401, ça concerne la région en quelque sorte. Mais on n'a pas touché toutes les communes. On a juste ciblé des villages. Il y a la commune de Ziguinchor, la commune de Bignona et aussi au niveau de Suy. Mais ce n'est pas l'ensemble des villages ou des communes qui se sont déplacés. C'était juste fait exprès, voilà, de faire un peu de bruit au niveau de certains villages pour qu'ils sachent que la déficience intellectuelle est là, mais quand même, il faudrait le prendre en charge. Maintenant, après la consultation médicale, après avoir détecté des anomalies, il y a un suivi qui se fait. Comme l'hôpital de la paix, il y a des athlètes qu'on amène là-bas pour un suivi, surtout le cardiologue, je pense, c'est Manga, qui nous prend les enfants gratuitement. Donc, c'est vraiment une chose à saluer. On fait aussi des sensibilisations pour l'état civil, parce que souvent, par méconnaissance, les parents ne savent pas que c'est important de chercher un extrait à son enfant.
Donc ils ne sont pas répertoriés, donc ils n'existent pas aux yeux de l'État.
Ils disent que, pour leurs explications, puisque l'enfant ne va pas à l'école et ne fait rien du tout, de toute façon il ne va pas voyager, à quoi bon de chercher un papier ? Donc c'est par sensibilisation qu'ils ont pu comprendre que chacun d'entre nous doit avoir un extrait et aussi une carte d'identité. On les oriente aussi pour la carte d'égalité des chances.
Ça veut dire aussi ce que vous êtes en train de nous expliquer, c'est non seulement par le sport on leur donne une capacité de s'amuser, mais tout simplement une capacité d'exister aux yeux de la société. Voilà. Vous avez parlé de cet hôpital au sein duquel vous exercez, professeur Lamine Thiam. Vous suivez, vous, des enfants qui présentent des déficiences intellectuelles au niveau de la région, de Ziguinchor. Dans la plupart des cas, qu'est-ce que vous voyez comme cause, justement, de ces maladies, de ces troubles qui peuvent être neurologiques ?
Effectivement, à l'hôpital de la paix de Ziguinchor, au service de pédiatrie, j'ai une consultation hebdomadaire que j'ai fait tous les mercredis, où je ne fais que de la consultation neurologique, neuropédiatrique. Donc, je reçois dans cette consultation, effectivement, des enfants qui ont des handicaps. Un handicap dans le sens large, que ce soit une déficience intellectuelle ou bien un handicap beaucoup plus global. Voilà, donc parmi ces enfants-là quand même, les causes sont assez multiples et fréquentes. Soit l'handicap, il est isolé. Là, souvent, après, on essaie de voir un syndrome. Est-ce que c'est un enfant qui a un trisomie 21 ou des trucs comme ça? Soit l'handicap est global, dans un contexte de déficit global où il y a un déficit moteur. Là, souvent, les causes, malheureusement, sont liées à des anomalies de la grossesse et de l'accouchement. Parmi lesquelles, on a l'asphyxie périnatale, l'encéphalopathie anosoïschémique, et qui, malheureusement, est la cause qui domine parmi ces enfants-là.
Et c'est pour ça qu'on travaille autant, justement, sur la sécurisation des accouchements pour avoir des bébés qui naissent en pleine santé. Est-ce que ces enfants présentent, à côté des problèmes directement liés à leur handicap, d'autres risques sur le plan de la santé ? Là, on pense à la santé du corps, on pense à la santé cardiaque, on pense aussi à tout ce qui peut être lié au surpoids, bref, la santé générale.
Tout à fait, tout à fait. En fonction du contexte, en fait, des différents déficits que l'enfant présente, par exemple, je prends l'exemple des enfants qui ont un déficit beaucoup plus global, où ils ont une déficience sur le plan moteur, mais également sur le plan intellectuel, cognitif de façon globale. Ces enfants-là ont beaucoup de comorbidités. Et donc, les prendre en charge, ça veut dire prendre toutes les différentes comorbidités. Donc, leur prise en charge est souvent faite par une équipe. Je ne suis pas le seul. Je fais appel quand même souvent, on a un pédopsychiatre qui est avec nous. On a également les neurologues adultes. Bon, puisque je suis un peu seul, je suis obligé de faire appel à des neurologues adultes pour certains éléments sur lesquels ils peuvent nous aider. Donc, globalement, on essaie de faire une équipe multidisciplinaire pour pouvoir prendre en charge le maximum de comorbidité possible.
Vous dites que vous êtes un peu seul parce que vous êtes un diplomate. Vous êtes en fait tout seul au niveau de la Casamance à être neuropédiatre.
Oui.
On parle des facteurs biologiques, on l'a évoqué rapidement. Il y a aussi tout ce qui est facteurs socioculturels. Parce que c'est vrai que les enfants, non seulement ils peuvent présenter, les enfants en situation de handicap, plus de risques, mais finalement, ils sont aussi plus exclus. Donc ça veut dire, ce sont eux qui en ont davantage besoin et c'est ceux qui ont le moins de moyens. Donc il y a une sorte de paradoxe qu'il faut rectifier. Et pour ça, il faut changer peut-être, on va parler beaucoup du regard des autres, mais aussi l'approche des soignants et l'approche des parents, dire votre enfant, ça vaut le coup de le soigner, ça vaut le coup de l'amener aussi à l'hôpital.
Effectivement, ça c'est vraiment des difficultés majeures que nous rencontrons. Parce que ces enfants-là, déjà pour qu'ils accèdent aux soins, causent problème. L'élément en tout cas le plus marquant dans cette prise en charge, c'est que une fois ils arrivent même à l'hôpital, nous on les inclut dans notre cohorte, on essaie de diagnostiquer le maximum de comorbidités qu'ils présentent, mais souvent on a l'impression que les parents sont déçus parce que les offres de soins souvent sont limitées et du coup malheureusement ces parents-là ont du mal à en tout cas à respecter les rendez-vous, à revenir à la consultation et après on les perd de vue.
Tout à l'heure, vous nous avez expliqué, Aissatou Diédiouk, vous étiez venu de Dakar, retour à la région d'origine. Est-ce qu'il y a aussi des médecins qui viennent spécialement de Dakar pour faire des consultations de manière épisodique et voir des centaines d'enfants comme ça ? Et je voulais aussi poser une question sur les soins primaires. Est-ce que vous avez accompagné aussi des campagnes de vaccination ?
Des campagnes de vaccination, non, c'est pas fait. Mais la consultation, les médecins nous viennent de Dakar, mais c'était les premières années. Mais après, il y a les médecins qui sont là au niveau de Ziguinchor qui viennent appuyer une petite équipe qui vient de Dakar. Donc, c'est comme ça que ça se passe. Mais pour les vaccinations, non, c'est pas encore fait, des campagnes de vaccination. Sauf ce qu'on fait, peut-être, c'est la sensibilisation pour le paludisme. Ça, on le fait avec des distributions de moustiquaires.
Voilà, ça, donc, il y a de la prévention quand même.
Voilà, la prévention. C'est la prévention qu'on fait. La prévention.
Je me tourne vers vous, hein, Chérif Niassi. On a compris tout à l'heure, quand vous nous avez expliqué, le sport, c'était une vraie révélation pour votre fils. Il a trouvé sa place. Est-ce que vous aviez le sentiment qu'il n'avait pas trouvé sa place à l'école?
Effectivement, bon, j'avais le sentiment qu'il n'avait pas trouvé sa place parce que pratiquement, vu ses résultats scolaires, ça n'allait pas. Donc, aujourd'hui, quand il s'est intégré dans le sport, quand même, il a intégré la population.
Il a arrêté l'école à quel niveau? Votre fils, c'est Nfali, c'est ça son prénom?
C'est Nfali Niassi, oui. Ouais, il s'est arrêté en classe de CE2.
Ça veut dire qu'aujourd'hui...
Cours élémentaire, deuxième année.
Il sait lire ou il ne sait pas lire?
Oui, pratiquement, il sait lire. Ouais. Il sait lire, on l'accompagne jusque-là. Jusque-là, à la maison, parfois, je l'accompagne à quand même regarder certains livres et pouvoir lire, pour pouvoir se prendre en charge lui-même.
Et, ouais. Et vous diriez que le plus important pour le sport, c'est l'exercice physique ou c'est le fait d'être avec les autres?
Non, mais effectivement, c'est non seulement l'exercice physique, c'est important pour le corps, mais aussi la sociabilité avec ses amis. Auparavant, quand même... il était seul, tout simplement isolé. S'associer avec les gens, c'était une difficulté pour lui. Mais aujourd'hui, quand même, il regroupe, il regagne le groupe. Même dans le coin, il regagne ses amis, il joue ensemble avec ses amis. Donc, c'est un acquis. Le sport, quand même, lui a révélé quand même une chose quand même qui est importante, d'être en association.
Aïssatou Diédiou, vous vouliez intervenir sur ce sujet?
Voilà, je voulais intervenir sur ça. Je pense qu'il a un peu brossé sur le point-là. Voilà, c'est un vrai leader maintenant. Il était timide, il était au niveau de son coin et autres, mais maintenant c'est un vrai leader avec une prise de parole vraiment qui fait une satisfaction pour l'association. Donc c'est pour vous dire que, comme il l'a dit, le sport lui a ouvert les yeux. Le fait de se battre et de gagner par rapport au titre, ça a fait qu'il a maintenant... confiance en lui, la confiance a fait que il est devenu un véritable lion, en tout cas.
Est-ce que vous avez redécouvert votre fils avec le sport? Vous avez découvert un petit garçon, enfin un grand garçon maintenant, que vous ne connaissiez pas vraiment?
J'ai redécouvert un autre Nfali par rapport à quand il était enfant. Donc aujourd'hui, quand même, il parvient à regagner ses amis, il parvient à prendre ses décisions à lui seul, il parvient à faire ses activités à lui seul, donc c'est un acquis.
Elle a une bonne idée, votre femme, de vous conseiller d'aller frapper à la porte de Special Olympics.
Vivement, donc je la remercie beaucoup, vraiment.
Professeur Lamine Thiam, justement, sur ce côté de la vie sociale, qui est vraiment aussi un pilier de la santé mentale et du bien-être de tous, mais peut-être encore plus de ces enfants qui ont vécu et qui ont souffert de l'exclusion. Pour vous aussi, vous voyez que c'est un critère essentiel pour la santé des enfants?
C'est un critère fondamental parce que c'est important de prendre en charge l'aspect physique du malade, mais en dehors de l'aspect physique, mais l'aspect mental joue en tout cas un rôle très important. Ces enfants qui s'épanouissent, on le sent même à la consultation lorsqu'ils arrivent, ils ont envie de discuter, y compris les parents, de même que le malade sont renformés, les questions sont souvent avec des réponses courtes. Mais lorsqu'il commence à s'épanouir, la conversation devient plus longue parce que la discussion est beaucoup plus ouverte, etc. Donc, côté mental, le sport quand même a un plus-value quand même important.
Et on comprend bien, quand on est un enfant, l'intégration, ça passe par l'école. On va se rendre à présent, toujours ici à Ziguinchor, dans une école vraiment ouverte à toutes et à tous. Reportage.
RFI à Ziguinchor.
Et nous sommes allés rencontrer l'équipe et les élèves de l'école El Hadji Omar Ndiaye. C'est la seule école inclusive de la région. Elle accueille un peu plus de 550 élèves répartis dans 10 classes avec 107 enfants en situation de handicap. Ce qui signifie qu'ensemble, côte à côte, on retrouve des élèves dans la classe sans aucun handicap et d'autres qui présentent une déficience mentale. Ici, on offre donc la possibilité aux petits concernés par la trisomie, l'autisme, la surdité ou un handicap moteur d'apprendre, mais aussi tout simplement de vivre ensemble. Reportage signé Ophélie Lassène.
Je m'appelle Sadebou Diédjou. directeur de l'école El Hadj Omar Ndiaye. Je suis directeur de cette école depuis cette année, nouvellement affecté. Bon, j'ai juste appris que cette école était une école inclusive, juste au moment de la cérémonie de passation de service.
Qu'est-ce que vous en avez pensé ?
Bon, j'ai pensé que c'est juste un défi à relever, du moment qu'on est là au service des enfants. Avant de venir ici, j'ai pensé que c'était des enfants dont il fallait surtout prendre en charge simplement. Mais aujourd'hui, j'ai vu qu'il y a une possibilité d'autonomisation de ces enfants, des réalités qui pourront être prises en charge personnellement par ces enfants même. Donc, ma vision a beaucoup changé, a beaucoup évolué.
Pour les enfants qui n'ont pas du tout de handicap, est-ce que leurs parents, eux, peuvent avoir un peu des réticences à les laisser avec des enfants qui ont un handicap ?
Nous avons créé ici un monde en miniature où les enfants s'acceptent. Les parents des enfants en situation de handicap, les parents des enfants dits normaux, acceptent le fait de les mettre ensemble parce que ça permet de sensibiliser et de sociabiliser les enfants. C'est une vie en société qui est déjà en miniature qui est là et qui promet pas mal de choses.
Nous sommes les enfants de la nation, nous sommes l'espoir de la patrie, nous sommes la jeunesse du Sénégal. Éduquez-nous, formez-nous.
Je m'appelle Adama Diouf, enseignant de profession. Je suis le point focal du projet éducation inclusive dans notre école, qui se trouve être El Hadj Omar Ndiaye.
Vous travaillez ici depuis combien de temps ?
Je suis là depuis 2006, pratiquement 19 ans.
Vous êtes enseignant, vous avez eu une formation d'enseignant, et ensuite vous avez eu une formation peut-être un peu différente ?
On a eu une formation initiale, mais aussi j'ai été très curieux, ce qui nous a beaucoup renforcé en termes de connaissances liées au handicap.
Et dans vos classes, il y a des enfants qui sont en situation de handicap, d'autres qui ne sont pas porteurs de handicap. Comment on fait pour gérer une classe avec des enfants si différents, avec des profils si différents ?
Ne serait-ce que sur le plan pédagogique, il y a ce qu'on appelle l'enseignement différencié. Donc même si on n'avait pas une formation sur le handicap, on devait avoir les capacités à pouvoir gérer ces classes-là. J'ai une enfant, par exemple, malvoyant, il a perdu son œil gauche. Si je le place dans ma classe, je le mets du côté de mon côté droit, moi l'enseignant, pour qu'il puisse balayer toute la classe. Si j'ai un enfant malentendant qui a perdu une oreille, par rapport à ma position dans la classe, s'il a perdu son oreille gauche, je dois chaque fois me mettre de son côté droit pour que quand je parle, il m'écoute. Ne serait-ce que ça, on peut les prendre en charge. Raison pour laquelle cette prise en charge, encore une fois, n'est pas aussi difficile. On s'adapte. Et ça, c'est l'enseignant.
Et on parle de l'apprentissage, apprendre à écrire, apprendre à lire. Mais vous leur apprenez aussi à vivre ensemble. Et on le voit, ils s'aident beaucoup entre eux, ils s'entraident. Ça, est-ce que c'est quelque chose que vous leur avez enseigné ?
Oui. L'autre défi que nous avons, c'est la socialisation des enfants. Et d'ailleurs, il faut dire que c'est la première mission de l'école, permettre à ces enfants-là, qui viennent de cultures différentes, d'éducation différente, de pouvoir vivre ensemble. Dans le cadre de l'inclusion, c'est ce que nous avons compris. Maintenant, on a certes des enfants, mais d'autres sont en situation de handicap, d'autres sont dits normaux. Voilà pourquoi il faut beaucoup insister sur la socialisation. Que les enfants dits normaux acceptent leur père, qui sont en situation de handicap. C'est tellement important. Et nous sommes convaincus que si ça part de ces enfants-là, demain, on peut s'attendre à une société meilleure, car ils n'ont pas de barrières et les enfants ne trichent pas. Et très souvent, ce n'est même pas une difficulté pour que les enfants acceptent leur père en situation de handicap. Il suffit juste, soit la première chose, c'est de les sensibiliser, et la deuxième chose, c'est de les laisser faire. S'il y a des problèmes, on rectifie, on avance. Et c'est comme ça que nous sommes parvenus à vraiment créer ce cadre-là où il y a de très belles ambiances dans les classes.
Vous, votre métier, c'est d'apprendre aux enfants. Est-ce que parfois, ces enfants, ils vous apprennent des choses ?
On apprend beaucoup de ces enfants-là. J'ai l'habitude de donner certains exemples. Quand on a un camarade qui est dans la classe, qui est en chaise roulante, ce n'est même pas l'enseignant qui l'aide. C'est les enfants qui prennent l'initiative. Je vous le dis, et c'est à la première année à l'école élémentaire. Donc vous imaginez un peu, si ces enfants-là, de cet âge, ont cet amour, cette envie de faire, cette envie d'aider, je pense qu'on apprend toujours de nos apprenants. Mieux encore, très souvent, vous avez des enfants déficients intellectuels ici, des enfants autistes. Pendant la récréation, vous allez voir un enfant qui prend toute la récréation pour accompagner son camarade élève autiste. Même dans le cadre du travail, vous allez voir que quand ils sont avec le camarade, s'ils ont des difficultés à écrire, ils prennent la main pour l'aider à écrire. Je pense que c'est vraiment un don de soi. C'est de l'amour, c'est de la sympathie que ces enfants-là nous apprennent chaque jour qu'on vient à l'école.
Omar Ndiaye Latoudou, nek parent d'élève ci école bi Voilà, je m'appelle Omar Ndiaye, je suis parent d'élèves à l'école LH Omar Ndiaye. J'ai 4 enfants en situation de handicap dans cet établissement-là, dont une fille qui est actuellement au SEM. J'ai 4 enfants dans cet établissement, sont tous des sourds. Donc la première, comme je l'ai dit, c'est l'aînée. Donc de la famille, elle est actuellement donc au SEM. Elle fait la classe de 5e. Donc c'est elle qui a commencé avec le projet. Ensuite, les 3 autres sont venus donc au niveau de l'école. Ils sont là actuellement.
Est-ce que pour la première, vous avez essayé de l'inscrire dans d'autres écoles et elle a été refusée?
Quand elle était en cycle préscolaire, elle était bien dans un établissement. Mais quand elle devait commencer le cycle élémentaire, il n'a pas pu trouver donc une école pour sa fille. Donc il a fallu même déménager pour aller en bourg, parce qu'il y avait une école spécialisée là-bas. Mais vu qu'il habite ici et que son enfant était encore jeune, et les moyens aussi ne suivaient pas, donc il ne pouvait pas partir. C'est ensuite qu'il a appris, par le biais de quelqu'un, donc le projet avec Hachi au niveau de l'école. Il dit qu'il l'a su à 14h. À 15h, il était déjà là se présenter pour que sa fille donc puisse aller à l'école.
Qu'est-ce que ça a changé pour vos enfants d'être scolarisés ici? Qu'est-ce que, au quotidien, est-ce que vous avez vu un changement chez eux?
Voilà, il dit qu'il a vu un grand changement chez ses enfants. Donc, sur le plan éducatif, les enfants sont beaucoup améliorés parce qu'ils savent lire et écrire. Donc, ils voient un grand intérêt et au niveau donc même de la société, les enfants parviennent à s'intégrer. Donc, ils disent n'importe où ils vont, donc ils peuvent s'intégrer parce qu'ils ont le niveau, ils ont été éduqués.
Qu'est-ce qu'on peut leur souhaiter à vos enfants?
Voilà, il dit qu'il souhaite tout le bien pour ses enfants. Il le souhaite aussi d'intégrer la société, de trouver un emploi comme tous les autres. Voilà, il pense qu'ici à l'école, tous les moyens sont mis à leur disposition pour qu'ils puissent réussir, atteindre leurs objectifs, trouver un emploi comme tout le monde, afin aussi de pouvoir l'aider, aider la famille, aider aussi la communauté.
Reportage d'Ophélie Lassène. Alors là, on a vraiment un gros plan sur une politique d'inclusion, mais il ne faut pas non plus se faire d'illusions. Dans la société, l'exclusion, elle est là. Et elle est même d'ailleurs parfois, professeur Lamine Thiam, cette exclusion favorisée par un certain nombre de croyances. On range ça sous l'appellation un petit peu polie des facteurs culturels. Et ça peut vraiment stigmatiser, pénaliser les enfants comme la famille tout entière. Cette stigmatisation, quand on est ici en Casamance, ça se manifeste comment ?
Bon, cette stigmatisation peut se manifester sur plusieurs formes. Alors, déjà, moi, en tant que médecin, les malades qu'on reçoit, par exemple, à l'hôpital, on le voit à travers, surtout, par exemple, les accompagnants, la famille. J'ai toujours en mémoire, toujours, des dames que je reçois à la consultation accompagnées de leurs enfants et qui te montrent carrément que la souffrance qu'ils sont en train de vivre dans la famille. C'est-à-dire qu'ils sont complètement exclus de la famille, tout simplement parce que l'enfant qu'ils ont, c'est un enfant qui, entre guillemets, est supposé anormal.
Ça veut dire que la stigmatisation, elle vaut pour l'enfant, mais elle vaut aussi pour la maman.
Pour la famille aussi, également.
Elle vaut
également
pour l'enfant. La disgrâce.
De même également pour la famille.
Et on les accuse de quoi? Est-ce qu'il y a quand même encore des accusations de sort, de maléfice, voire même certains de ces enfants qui ont été chez le tradi pour faire retirer ce mauvais sort? Est-ce que souvent, ils sont passés par cette étape-là?
Si, ils sont en fait, souvent, ils qualifient l'enfant d'un enfant qui n'est pas, entre guillemets, un enfant anormal. Et derrière également, la maman aussi, voilà, on la qualifie comme étant une dame qui est, entre guillemets, sorcière parce qu'elle a mis au monde un enfant qui n'est pas normal. Un enfant sorcier.
Et comment est-ce que vous, le médecin, vous travaillez sur ce côté-là pour rassurer, pour accompagner ces personnes qui souffrent?
J'avoue que c'est excessivement difficile. C'est très, très, très difficile. Nous, parfois, à un moment donné, on est un peu désarmé. Parce que si on est en face de cette maman accompagnée de son enfant-là, et malheureusement, le plus souvent, c'est seulement la maman qui vient avec son enfant, qui vous tient un langage comme ça-là, vous sentez carrément qu'elle est exclue de sa famille, de la société. Après, vous, en tant que médecin, vous êtes très, 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 très mal à l'aise. Après, bon, on essaie de l'expliquer quand même. On essaie de l'expliquer du point médical, qu'ils puissent comprendre que ça n'a rien à voir avec tout ce qu'on lui a raconté dans la maison. C'est purement médical, Et on essaie de la faire comprendre cela. Bon, parfois maintenant, on fait appel de temps à autre peut-être à des psychologues. On a, par exemple, à l'hôpital de la Paix, on a des assistants sociaux. Des assistants sociaux quand même qui sont très bien formés dans ce sens-là. Et on fait appel parfois aussi au CHICAT qui est l'hôpital psychiatrique. Et donc, on fait une équipe autour de la famille. On arrive quand même souvent à dédramatiser la situation.
On va poursuivre notre échange, hein. On va se retrouver tous les trois dans quelques instants, toujours ici à Ziguinchor, juste après Amadeus et Wally Bissek, avec ce titre « Jelly » dans Priorité Santé sur RFI.
Salaw yang sayang mer Saman jambar ki yo milo ekko do tuma wiri wiri jarin dari limo mum lai jele do tuma yon ni ken ci sama waji man mi ma koy jele do tuma wiri wiri jarin dari limo mum lai jele tani sama waji do tuma yon ni ken ci sama waji man mi ma koy jele tani sama waji bara ma jo Fajar fek nga ten jayoy Bale kar ki rakha sinaf Niki bobu dam gai wajal
Dunda mata nyano Inda te gende dafa kui jut Ndak fitna loma Khebo li malay jok Lep lo manyan dina lamay
Dotu ma def len lulay meti sama daw si Nak sama daw le nga don lera sama yone Dotu ma nangu min def di dok sama di kaki aw Ndak yala mo def ki nyun loluina Ay way
Gany la takul nga ba
Ton la takul nga may rechoy
Salaw yen say nga mer
Sama nyambar ki yun mila wekoy
Dotu ma wiri wiri jarin dari lima mom lai jele Dotu ma yun ni kenti sama waji man mi ma koy jele
sama waji man mi ma koy jeli
sama
waji gan la taxu nga ba to la taxu nga mi rektoy sa law yeen say nga me sama nyambar ci yo mi la wekoy
Priorité santé au Sénégal, c'est en Casamance que nous évoquons avec nos trois invités l'engagement de la communauté pour améliorer la situation des enfants en situation de handicap. Coup de projecteur sur les activités de l'association spéciale olympique Sénégal, avec la responsable du programme initié ici à Ziguinchor, également avec l'équipe d'El Hadji Omar Diaye, c'est une école que nous avons visitée. Avec nous donc Aissatou Diédiou, avec nous également professeur Lamine Thiam, chef du service de pédiatrie à l'hôpital de la Paix de Ziguinchor. On l'a dit, un seul neuropédiatre a exercé dans toute cette région de la Casamance. Et puis un papa, Chérif Niassi, partenaire également de son fils Nfali, aujourd'hui un athlète justement très performant au sein de cette association. Professeur Lamine Thiam, question au médecin. Est-ce que c'est vrai qu'aujourd'hui, cette recommandation de l'activité physique régulière, hein, c'est un pilier en prévention, en santé, vous faites aussi passer ce message en consultation auprès des parents, il faut à tout prix que vos enfants y fassent du sport?
Oui, je remercie au passage spécial olympique, hein, parce que, comme je l'ai dit au début, c'est-à-dire, lorsqu'on accueille ces familles-là et qu'ils nous montrent la souffrance qu'ils vivent parfois dans la famille, nous, les médecins, on est un peu désarmés. On n'a pas beaucoup d'offres à les proposer. Et du coup, lorsque j'ai connu spécial olympique, ça m'a permis d'avoir beaucoup plus de
c'est une nouvelle ressource.
Voilà, une nouvelle ressource à les proposer. Et donc, à travers ce sport-là, ça permet davantage de les maintenir dans la consultation et mieux, en tout cas, diagnostiquer toutes les pathologies, les comorbidités qu'ils présentent et mieux l'accompagner.
Ça veut dire qu'il y a non seulement l'entretien de tous les jours, hein, qui est essentiel, mais il y a aussi la compétition. Et ça, c'est vraiment le bonus, c'est le plus. Aissatou Diédiou, est-ce que vous avez ici des athlètes casamançais, hein, vos enfants en situation de handicap qui bougent et qui performent, qui ont réussi à se sélectionner pour certaines compétitions?
C'est ça. Donc, nous avons beaucoup d'athlètes qui ont avancé dans le domaine du sport. Et nous avons pu développer la motricité de ces athlètes au point qu'ils se sont retrouvés au niveau international. Donc, si je peux donner l'exemple de Djenaba Diata, elle ne pouvait même pas faire 50 mètres sans tomber quand elle était venue chez nous. Donc, dès qu'elle court, elle tombe. Elle court, elle tombe. Maintenant, à force de travailler sa motricité, l'estime de soi, voilà, et tout, l'encourager et autres, elle s'est retrouvée en Égypte et elle est revenue avec des médailles d'or, je vous assure.
Ça fait plaisir.
Et récemment, elle est allée à Bruxelles pour le basket. Et c'est vraiment un plaisir. Et elle est très engagée maintenant, très autonome maintenant et très engagée par rapport à la cause des athlètes. Donc, on leur prépare par rapport au sport, mais aussi ceux qui sont autonomes aussi aident ceux qui ne sont pas autonomes, ce qui fait que c'est soudé, c'est le social et ça fait progresser tout le monde.
Ça dépasse bien le sport, on l'a compris. Alors justement, on va donner la parole à ses enfants, deux enfants, Aïcha, elle est malentendante, Auguste, 14 ans, malvoyant et porteur d'une déficience mentale. On les a rencontrés toujours dans cette magnifique école, hein, El Hadji Omar Ndiaye de Ziguinchor, où tout le monde apprend ensemble. Ici, les enfants en situation de handicap sont tout simplement des élèves. Le directeur de l'école nous a laissé son bureau pour qu'on puisse faire cette rencontre avec une jeune fille élève ici dans cette école et pour nous servir de traductrice dans les classes où il y a des enfants malentendants. Dans chacune des classes, il y a des auxiliaires de vie. Pour aller plus vite, on dit ici AVS. Vous êtes justement l'une de ces auxiliaires de vie. Madame Djenaba Koli-Ghem, bonjour.
Bonjour, madame.
Alors, c'est vous qui allez être la voix de Aïcha, la jeune fille qui est habillée tout en bleu, qui est assise juste en face de vous. Et comme ça, elle va signer en langue des signes. Et vous, vous comprenez parfaitement ce qu'elle dit et vous allez nous le retranscrire dans votre voix. Donc, ce sera une voix de dame qui sera la porte-parole d'une petite fille.
Exactement, madame, exactement. Et on va essayer d'interpréter tout ce qu'elle dira, Inch'Allah.
Bonjour Aïcha.
Elle a dit bonjour, elle a répondu à votre bonjour.
Je voudrais savoir quel est ton âge et tu es dans une classe de quel niveau, s'il te plaît?
Elle dit qu'elle a 10 ans. Hein, elle est dans la classe, oui, c'est à l'école, elle est en classe 2, CM2A.
Quand elle est à la maison, comment elle communique avec papa, maman et les frères et sœurs?
Ok, elle dit qu'elle n'est pas avec sa famille, elle est dans une autre famille d'accueil, la famille Ndiaye. Et là-bas, il y a de ses enfants, la famille Ndiaye, qui sont sourds comme elle, et elle parvient à communiquer avec eux. Voilà. Elle dit que ses parents sont au village, elle est avec, ici à Ziguinchor, avec la famille Ndiaye. Et elle communique dans la famille, tout le monde signe.
Est-ce que c'est important pour elle d'avoir des copains et des copines à l'école qui sont aussi capables de signer alors qu'eux, ils entendent et ils parlent? Qu'est-ce qu'elle en pense justement que les autres ils fassent ces efforts et qu'on leur apprenne tout ça alors que si on réfléchit, ben, ils n'en ont pas directement besoin pour eux-mêmes?
Elle dit qu'elle, elle aime bien ses amis qui sont là. Des entendants, ils signent. Ici à l'école, tout le monde signe. Et ça, elle dit que ça crée cette symbiose. Là, ils sont mélangés. Et ça, ça lui plaît beaucoup.
C'est quoi ses projets? Parce que je pense que c'est une bonne élève, cette petite fille. Elle va certainement aller au collège. Et après, est-ce qu'elle a imaginé, par exemple, si elle voulait faire un métier, qu'est-ce qu'elle aimerait faire?
Ce qu'elle explique, c'est qu'elle aimerait voyager, faire un peu de tourisme, à visiter, partir de loin, voilà. C'est ce qu'elle explique. Elle veut être guide touristique.
Elle veut découvrir le monde.
Elle veut découvrir le monde. Elle va aller voir ailleurs ce qui se passe. Merci Aïcha.
Bonjour Auguste.
Bonjour madame. Je suis à l'école Bougot Suite Néma de Jigenshor. J'étais ici à l'école Elhadj Omar Ndiaye de Bougot Est. Mais après mon 36e, que j'ai quitté cette école.
Comment ça s'est passé? Est-ce que tu as des souvenirs de ce qui se passait quand tu étais comme ici, un petit peu à la petite école?
Oui, mes souvenirs, quand je parle d'autres souvenirs, ça me fait rendre des larmes. Donc je ne peux pas parler trop. Les gens me moquaient de moi. Ils disaient que je n'ai pas la place dans cette école, que je suis handicapé. Je ne peux pas écrire normal. Ils me disaient que je n'ai pas la place ici. Chaque année, ils me font redoubler jusqu'à m'arriver ici. Oui, c'était vraiment différent. Quand je suis venu ici, ils me faisaient à l'aise, ils me faisaient sortir de l'école. Il y a d'autres élèves qui habitent dans ce quartier. Ils me faisaient visiter leur maison et leur famille. Ils les expliquaient ma situation et ça me rend bien heureuse d'être ici.
Aujourd'hui, tu imagines quoi? Parce que là, tu es en sixième. Tu sais ce que c'est le métier que tu as envie de faire plus tard?
Moi, j'ai envie d'aider les enfants comme HI, Humanité Inclusive de Jigenshor, d'aider les enfants en situation de handicap aussi.
Tu as envie de devenir éducateur pour enfants handicapés?
Oui, même d'être enseignant comme de cette école, comme les autres enseignants qui m'ont aidé jusqu'à sortir dans cette école. Je rêve d'être dans cette partie.
Aïssatou Diédiou, comment vous réagissez à ce qu'on vient d'entendre, ces deux enfants? Une petite fille malentendante, un garçon qui a été opéré, qui avait un lourd handicap, qui a été soulagé quand même par la médecine, mais aujourd'hui qui garde quelques séquelles et qui a quand même réussi à aller jusqu'au collège.
En tout cas, c'est très intéressant ce qu'on vient d'entendre. Ce qui montre que le cadre, l'environnement, ce sont des éléments très essentiels pour le développement d'une personne et pour la réussite d'un enfant. Et là, lui, il a un rêve qu'il veut atteindre, et c'est très important. Et je vais juste insister sur une chose, l'inclusion, c'est une chose que vraiment tous les acteurs de développement devaient s'atteler au niveau de l'inclusion, parce que l'inclusion touche tout le monde. Si ça ne vous touche pas aujourd'hui, ça peut vous toucher un autre jour. Parce que si vous n'avez pas directement un enfant qui a un handicap, certainement votre cousin, votre cousine, votre grand-mère ou quelqu'un d'autre en a. Donc si vous traitez d'une façon ou d'une autre un enfant, certainement demain, quelqu'un fera la même chose pour vous. Aujourd'hui, les élèves comprennent mieux la déficience intellectuelle et les athlètes commencent à avoir leur place parce qu'il y a compréhension au niveau des acteurs qui sont les élèves. Ces élèves-là nous permettent d'avoir un autre relais qui vont sensibiliser au niveau des maisons parce que ces élèves-là, parfois, ils ont des frères et sœurs qui sont chez eux, qui sensibilisent au niveau des quartiers aussi pour dire que avoir une déficience intellectuelle, c'est pas une malédiction. Ils ont juste besoin d'accompagnement pour pouvoir avancer.
Quand je vous entends, Aïssatou Diédiou, on va arriver à la conclusion de notre émission. On comprend toute l'importance de l'autonomisation et du changement de regard. Ce changement de regard, ce sera juste l'avant-dernier mot de la fin. Chérif Niassi, ce regard des autres sur votre fils, il a changé? Vous avez l'impression qu'aujourd'hui, il a beaucoup plus confiance en lui? Et vous, est-ce que vous êtes fier de lui aujourd'hui?
Non seulement il a confiance en lui, mais c'est aussi quand même les regards ont changé de camp. Effectivement, par rapport à ces regards qu'il avait en premier lieu, aujourd'hui, quand même, c'est quelqu'un qui voyage à travers les compétitions qu'ils sont en train de faire d'ici Dakar. Il est parti même jusqu'en Allemagne. Mmh. Hein? Donc, à son retour, quand même, il a été accueilli en triomphe à la maison. Donc, voilà, quand même, c'est une émulation par rapport à lui. Donc, s'il est parti même aujourd'hui jusqu'à se prendre lui-même en charge, donc je me dis que quand même, c'est un acquis.
Ouais. C'est quel progrès.
Quel progrès.
Ouais. Professeur Lamine Thiam, ce changement de regard, on a compris, il y a la société, il y a les enfants, il y a l'école, on sait qu'il y a aussi les pouvoirs politiques, mais comme ils ne sont pas là aujourd'hui, on ne va pas leur donner la parole. Malgré tout, il y a aussi les soignants. Il y a aussi des soignants qui, des fois, n'ont pas le regard qu'il faudrait par rapport à ces enfants qui ne leur donnent pas toute leur place.
Non, en fait, peut-être c'est des soignants qui n'ont pas compris.
Oui.
Parce qu'en réalité, le médecin, c'est d'abord lui en premier qui devrait accompagner ses enfants. Mais si un médecin a une réaction comme ça, ça veut dire qu'il n'a pas compris, tout simplement. Malheureusement, effectivement, ça, on le vit dans nos sociétés, dans nos structures hospitalières où les médecins ne sont pas très bien médicalisés dans ce domaine. Donc, pas beaucoup de spécialistes dans ce domaine. Deuxièmement, ils ne sont pas bien informés, comme la population générale.
Et ça veut dire qu'il y a un effort de formation aussi à faire.
Tout à fait. Il y a un effort de formation à faire dans ce sens-là, pour davantage avoir des spécialistes, mais aussi sensibiliser le maximum de médecins par rapport à ce sujet.
Un grand merci, un merci infiniment à tous les trois pour cet échange, et à toute l'équipe aussi, et aux enfants de l'école Eladji Omar Ndiaye qu'on a pu rencontrer, on l'a entendu à travers nos reportages. Bravo encore à toute l'équipe, aux bénévoles de votre association, Aïssatou Diédiou, à Special Olympics. Et avant de nous dire tout à fait au revoir, on écoute Diela avec Doflo Ngama dans Priorité Santé sur RFI, une émission réalisée en partenariat avec le Fonds Muskoka. Ma belle yola, duke ni yola, do flow ngama. Man ki mata ni yola, ngano maraula, duke ni yola, do flow ngama. Ya moko tama, ya moko janga, ya uli nganda, do flow ngama. La bilu mutanga tanga, kendo moko raja, linga janta, do flow ngama. Jakar sulan nawe, danga koi titero.
Priorité Santé, c'est fini. Une émission préparée par Ophélie Lassen et réalisée par Victor Hull. Nous nous retrouvons demain, toujours ici en Casamance, pour cette deuxième émission spéciale à Ziguinchor. Nous allons parler de la prévention et de la vaccination en milieu scolaire. Santé à l'école avec la campagne contre le papillomavirus pour prévenir notamment le cancer du col de l'utérus. Nous ouvrirons notre micro à des adolescentes pour répondre à leurs questions sur leur santé, rassurer, expliquer. Des spécialistes seront là, bien sûr, pour expliquer et sensibiliser. On se donne rendez-vous à 9h10 temps universel. Et d'ici là, restez à l'écoute de RFI. Et surtout, portez-vous bien.
C'était Priorité Santé. Téléchargez MySounou pour souscrire ou gérer vos assurances et MySounou Bank pour votre compte bancaire.